Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Il est 7h44, le petit déjeuner politique avec Hervé Lebras, qui est historien, démographe et directeur d'études à l'EHESS.
Oui, bonjour Hervé Lebras.
Bonjour
Patrick. On le prononce à la bretonne.
À la bretonne.
Vous avez tout à fait raison.
Absolument. Alors, on n'arrête pas d'enquêter sur le mouvement des Gilets jaunes. Vous, le grand spécialiste, le plus grand démographe français, l'un des plus grands également en Europe, comment vous expliquez qu'au bout de deux mois, le soutien ou la sympathie reste aussi élevé, plus de 50%?
Moi, je pense parce qu'ils ont touché quelque chose qui n'était pas simplement de l'ordre du niveau de vie, de l'ordre des taxes, mais un point qui est essentiel pour la vie de nombreux Français, qui est cette histoire de voiture. Donc, on voit quand même dans les sympathisants actuellement, et dans les soutiens c'est à peu près 25%, les sympathisants c'est 25%, c'est très vraisemblablement des personnes pour qui la voiture n'est pas un luxe ni un plaisir, mais un instrument de travail. Et donc ils se sont sentis progressivement menacés dans leur instrument de travail. Il y a eu les 80 km/h d'abord, il y a eu le haro sur le diesel ensuite, et à la fin, ils ont senti avec la dernière affaire de la taxe carbone, qu'à terme, on allait les priver de leurs moyens de travail. Donc c'est beaucoup plus profond qu'une question de taxe ou tout.
Oui, oui. Et puis, c'est profond aussi parce que vous l'avez analysé souvent, il y a une France quand même qui se paupérise, il y a une France, la fameuse diagonale du vide, il y a une France qui décroche totalement.
Alors, elle se paupérise. En fait, non. Quand on regarde de près, la plus grande pauvreté, c'est dans les villes,
c'est dans
les villes moyennes et un petit peu dans les grandes villes. Elle ne se paupérise pas, mais c'est tout ce qui est service public et même privé a disparu sous prétexte qu'il n'y avait pas grand monde, que ça continuait à se dépeupler. C'est ça la diagonale du vide. Et donc, c'est ceux qui sont le plus concernés justement par les voitures. Et il y avait une sorte de pacte implicite depuis longtemps entre le gouvernement et ces personnes, et aussi les personnes qui sont dans le périurbain, assez loin des centres-villes, qui étaient, d'accord, les services publics et privés s'en vont, mais on vous donne des moyens de les rejoindre rapidement, on vous aide pour la voiture, et on vous aide avec un réseau routier qui est vrai, est très bon. Et c'est ce pacte implicite qui a été rompu à partir d'octobre, à partir des 80 km/h. Donc c'est très profond, parce que la voiture, c'est aussi, c'est peut-être la première des libertés, qui est la liberté de mouvement. Et c'est ça qui est atteint par qui est progressivement devenu complètement apparent pour ceux qui maintenant manifestent.
Et puis il y a une France qui a un peu peur, qui conteste en fait de plus en plus aussi, parce qu'elle a l'impression qu'elle pourrait être rejetée. Ça, vous l'avez étudié à de nombreuses reprises lors des scrutins. C'était aussi un peu la France du premier tour de la présidentielle, quand même. Environ 60% de contestataires, de grincheux, etc.
Mais c'est pas les mêmes, justement.
Alors, ce sont pas les mêmes,
c'est pas les mêmes endroits du tout, justement. Moi, je pensais, quand j'ai commencé à regarder les chiffres, que j'allais voir apparaître peut-être la carte du vote Rassemblement National ou la carte du vote de Mélenchon, de la France Insoumise.
Mais il y en a.
Il y en a, bien sûr. Dans quelle proportion? Sans doute un peu plus du côté Rassemblement National, mais c'est plutôt, au fond, c'est hors politique, c'est-à-dire, c'est des personnes qui, justement, n'étaient pas, au fond, dont les préoccupations n'étaient pas celles des partis politiques. Et si on doit dresser
c'était
un parallèle...
C'était plus les abstentionnistes, alors, un peu.
Très vraisemblablement, beaucoup d'abstentionnistes. Et si on prend un parallèle, c'est avec, en 2002, chasse, pêche, nature, tradition. Oui. Où, tout d'un coup, quelque chose qui n'était absolument pas traité par les partis politiques apparaissait sur la scène. Et il y avait toute une clientèle qui était mobilisé, ça a atteint jusqu'à 30% dans disons une partie de la Somme, et puis aussi dans les Landes, etc.
Voilà, alors c'est
une onde politique qui apparaît tout d'un coup dans la politique.
Une onde politique qui rejette aussi un peu le système, les élites.
Oui, forcément, puisqu'ils ils entrent pas dans le cadre de ce qu'est la politique actuellement.
Et qui accroche derrière, dans le mouvement de soutien et de sympathie qu'il y a eu, notamment dès le début aussi, ces gens qui étaient beaucoup plus contestataires, quoi.
Alors, bien sûr, à partir, moi, ce que j'ai, au fond, le seul moyen de voir les choses a été pour moi les données du 17 novembre. Mais c'est le moment aussi où il y avait d'abord le plus de monde, et puis c'est le vrai moment, c'est le moment où ça se déclenche. Ensuite, une fois que le phénomène est déclenché, s'agrège à ce phénomène des tas de choses. Je doute maintenant que ce soit les mêmes, d'ailleurs, dans les 84 000 de samedi dernier, à mon avis, sont assez différents des 300 000 qui ont manifesté.
Comment vous voyez la suite, vous, de cette France qui semble quand même un peu fracturée aujourd'hui? Il y a combien de France, d'ailleurs? Parce que souvent on dit, il y a deux France. Est-ce qu'il y a...
C'était assez clair. Oui, je dirais. Quand on regardait les élections au premier tour, il y a une chose qui m'avait frappé. On pourrait dire qu'il y avait quatre France. Donc, il y avait quatre candidats, vous me direz, il y avait quatre France. Mais quand on regardait, c'était par couple. C'est-à-dire que, il y avait un premier couple qui était... Macron contre Le Pen. C'était vraiment, quand on inverse la cartographie de Le Pen, on trouve celle de Macron. Ouais. Et puis, il y avait une autre inversion qui était l'inversion Fillon contre Mélenchon. C'était aussi un peu les régions opposées l'une des autres. Et au fond, l'image qui se dégageait, c'était que il y avait un couple qui était, on pourrait dire, ouvert-fermé, qui était le couple Macron-Le Pen, qui était passé en tête du couple traditionnel gauche-droite ou bien riche-pauvre, qui était représenté par Fillon-Mélenchon. Donc je pense que ça a été un moment important dans la vie politique française. Du coup, ça vous fait au moins 4 France avec ces combinaisons.
Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent, il y a la France de Macron, de la France qui va bien. Il y a la France peut-être aussi des gilets jaunes et donc des gens qui se sentent plus ou moins dans ce mouvement. Et puis la France aussi, peut-être, on en parle un tout petit peu moins là, mais toujours aussi des quartiers, des banlieues, quoi, non ?
Oui, il y a aussi cela, mais même dans la France, par exemple, très clairement, si on prend la répartition des votes du Front National en France, il y a une géographie qui est très nette, qui est c'est des régions qui vont mal, c'est-à-dire c'est la bande nord-est, c'est toute la zone méditerranéenne et la vallée moyenne de vallée de la Garonne, après Toulouse. Mais quand on regarde bien cela, à l'intérieur de cela, il y a une très grosse différence, c'est que ce sont les zones éloignées, c'est le périurbain et surtout les zones rurales qui votent beaucoup plus pour le Front National, ou pour le Rassemblement National maintenant, que les villes et surtout que les grandes villes. Donc il y a encore à l'intérieur, si vous voulez, des quatre France dont on parlait, il y a encore une coupure qui est entre les centres urbains qui vont bien et puis leur premier entourage. Et d'un autre côté, ce qui est en dehors. Et c'est ça qui s'est révélé au fond avec les gilets jaunes.
Oui. Hervé Le Braz, vous êtes démographe, historien également, et on fait souvent le parallèle avec 1789, ce qui s'est passé auparavant. Est-ce que, par exemple, Macron, qui est en campagne, en quelque sorte, dans les gymnases, est-ce que ça vous fait penser aux états généraux ?
Vous savez, il y a il y a un petit livre de Marx qui est très lisible, c'est pas comme Le Capital, qui s'appelle « Le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte ». Et ça commence, il dit « L'histoire se répète, mais la seconde fois, c'est une caricature ». Donc, les comparaisons historiques, il faut beaucoup se méfier, parce que il y a des aspects forcément à chaque fois, dans chaque révolution, à vrai dire, il y a des aspects qu'on peut piquer, qui correspondent à ce qu'on a actuellement. Mais il y a des aspects seulement, et il y a à côté de ça, des très grosses différences. Par exemple, les États généraux, ils ont été convoqués par Louis XVI. Les gilets jaunes, ils ont été convoqués par personne. Donc...
Oui, enfin, sauf que là, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui convoque quand même l'ensemble des élus, quoi. Il ne parle pas directement aux gilets jaunes. Est-ce qu'il devrait s'adresser directement, selon vous, plus aux citoyens, aux gilets jaunes ? C'est délicat ou pas ?
Personnellement, mais là, c'est de l'ordre du de l'appréciation,
votre expérience, votre recul, c'est intéressant, oui.
Oui, non, je pense qu'il devrait, non pas s'adresser aux gilets jaunes en tant que gilets jaunes, mais il devrait avoir une fibre quand même un petit peu plus populaire, parce que j'ai regardé toute sa séance en Normandie au Grand Théroulde. C'était très brillant, mais on avait l'impression qu'il était pas en train de passer pour la troisième ou quatrième fois son grand oral de l'ENA. C'était il y avait pas là-dedans d'empathie, et il y a un côté un petit peu hors sol, ou quelqu'un disait, il y a un côté un peu Asperger dans sa façon d'être. Et je trouve que c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout... Tout le monde est d'accord qu'il est bon, qu'il connaît bien ses dossiers et tout, c'est pas là le problème. Le problème, c'est une empathie avec, au fond, la difficulté qu'éprouvent beaucoup de personnes.
Empathie et comprendre, quoi, les choses, peut-être. Oui,
je crois qu'il a beaucoup de mal à comprendre. Et là, dans ce cas-là, puisqu'on est sur la question de la voiture, c'est d'autant plus évident que pour lui, cette question se pose absolument pas et ne s'est peut-être jamais posée dans sa vie. Peut-être, je sais pas, mais est-ce qu'il a même son permis de conduire, par exemple ?
Comment sortir de cette crise, selon vous, Hervé Le Braz?
Difficile, mais parce que à
dissolution,
plusieurs moments,
revoir.
On a l'impression d'occasion ratée, c'est-à-dire que à plusieurs moments, au fond, on pouvait sortir assez rapidement de la crise. Le premier moment, c'était sur la taxe, il fallait se décider vite. Oui, non, il y a eu cet emberlificotement avec... elle était retardée, ou je ne sais plus quel est le terme employé, par un moratoire que personne ne comprend vraiment, où on sent, ça sent un peu l'entubage. Bon, donc, et c'était venu déjà un peu tard, et au fond, les aides sur le... au SMIC et, ont été données beaucoup trop tard. Ça avait beaucoup... Alors ensuite, ça avait bougé dans le sens politique, donc il y avait cette revendication, quoi qu'on en pense, du référendum
d'initiative
citoyenne. Il me semble que c'est là qu'il fallait prendre la balle au bon aussi, c'est-à-dire, bon, ben voilà, on crée une discussion sur ce thème-là, et pas sur tous les thèmes dans tous les sens. Ouais. Et ça n'a pas non plus été fait. Donc là, je n'ai pas grand espoir que ça marche bien, ce genre de consultation, de grand débat. Je me souviens d'un grand débat totalement raté, qui était celui de Sarkozy sur l'identité nationale. Bon... Donc c'est pas un bon, comment dire, c'est pas un bon format ce genre de débat.
Hervé Le Braz, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, qui va vous rappeler aussi que vous êtes démographe.
Hein. Oui, on prend un peu, on change d'angle de vue. Oui. Nous serons 10 milliards d'habitants en 2040 sur Terre. Est-ce que c'est une angoisse pour la planète?
Non, justement, j'avais fait un livre il y a, au fond, c'était en 94, donc il y a longtemps, qui s'appelait Les limites de la planète. Mm-hmm. Et dans l'article du Monde d'hier, parce que je pense à ça que vous faites allusion, j'ai retrouvé ce qui était, c'est pas pour me vanter, mais ce qui était dans ce livre, c'est-à-dire on a parfaitement les moyens de nourrir la planète, la question est une question de régime alimentaire, parce que la variable clé là-dedans, c'est la nourriture animale. Plus de la moitié des céréales produites sur Terre sont produites pour les animaux. Et alors vous me direz, ben ensuite on mange des cuisses de poulet ou bien des beefsteaks. Mais il y a une transformation entre les deux. Pour produire une calorie de beefsteak, il faut 10 calories données à l'animal, données à la vache ou au bœuf. Et pour poulet, il faut à peu près 6. Autrement dit, si vous ne mangez que, si vous êtes seulement carnivore, vous prenez entre 6 et 10 fois plus de calories produites, et donc on ne peut pas nourrir tout le monde en tant que carnivore. En revanche, si vous êtes totalement végétarien, je ne le recommande pas, mais si vous l'êtes totalement, même actuellement avec la production agricole, on peut nourrir 11 milliards de personnes. Donc entre les deux, bon, il faut trouver, mais il y a des pays... Oui, mais il y a un pays comme le Japon, un régime alimentaire qui est justement à peu près équilibré, ils ont très peu de personnes en mauvaise santé, etc.
Pas d'angoisse.
On peut y arriver. Merci Hervé Le Braz, donc historien et démographe, était l'invité ce matin de Sud Radio. Tout à l'heure, on va retrouver à 8h20 Dany Moreau.
Dany Moreau qui pirate l'info, et dans quelques instants, on sera avec Yves de Cardrel pour l'opinion, et on parlera de Ghosn qui est bientôt, et on parlera de son avenir à la tête de Renault, bien sûr.
Carlos Ghosn. Mon avis est derrière lui.
7h57, vous êtes sur